on va commencer par parler de l'Afrique. Alors, pas l'Afrique en général. Évidemment, ça aurait été absurde de demander à M. Dougnon de nous parler de ce genre d'absurdité dont nous souffrons, d'ailleurs. Mais de parler depuis une expérience africaine. Donc, je remercie le professeur Dougnon d'avoir accepté de venir. Il n'est pas juriste, donc il n'a pas tous les défauts liés à notre profession. Il est anthropologue et il a été formé en Allemagne, à l'université de Bayreuth, notamment par Gerd Spittler, dont j'évoquais la figure tout à l'heure. Donc vous êtes Herr Doktor, professeur. De 2003 à 2017, vous avez enseigné à Bamako et en 2017, c'est-à-dire très récemment, vous avez pris un poste de professeur d'études humanitaires francophones à l'université de Fordham à New York. Et Isaïe Dougnon est connu pour ses recherches justement sur la question du travail, et notamment sur qu'est-ce qui s'est passé lorsque, avec la colonisation, une certaine représentation du travail est venue heurter des rapports traditionnels au travail. Et la surprise, d'ailleurs, de la découverte de ce travail, je crois qu'il y avait cet adage qui est commun à plusieurs pays, le travail du blanc ne finit jamais. Bon. Ce qui ne paraît pas très civilisé, finalement. Bon, donc, ses travaux sont... Il a publié, justement, un livre chez Cartala en 2007, « Travail de blanc, travail de noir, la migration des paysans de Gond vers l'office du Niger et au Ghana ». Actuellement, il travaille sur les problèmes de crise de la liberté académique avant et après la démocratie, en résidence à l'Institut à Nantes. Et ce matin, donc, il va nous parler du travail entre tradition et modernité en Afrique de l'Ouest.
Merci Alain, je vais aller vite au but pour ne pas perdre une minute. Merci à tous ceux qui ont pu venir le matin. Hier, dans la matinée, nous avons entendu parler de la notion de crise. Je pense que c'est le panel de 9h jusqu'à 14h. Il y a eu tous les panélistes avaient prononcé le mot crise. Vous avez tous entendu parler. Et moi, je commence aussi par le concept de crise de passage. Certes, la notion de crise ici n'est pas seulement, oui, je ne le prends pas comme le sens médical de la crise, quand on dit le malade est dans une situation critique, ça veut dire qu'il va mourir tout de suite ou dans quelques minutes, ou bien quand l'économiste dit c'est la crise économique, ça veut dire que rien ne va. Ici, je prends ce côté, mais aussi je prends le côté comme opportunité, et surtout quand il s'agit des rites, des fonctionnaires. Et hier, on a beaucoup parlé du numérique. Aussi, au Mali, dans mon pays, on a parlé aussi des grandes entreprises, des corporations, de l'économie numérique. Il y a juste 2 semaines à Bamako, le chef du patronat se plaignait que les fonctionnaires ne maîtrisent pas le numérique et qu'il faut vraiment les dégager. Il a cité un certain nombre de fonctionnaires qui occupent des hauts postes, mais qui ne comprennent absolument rien au numérique, et le pays ne bouge pas parce qu'ils ne comprennent pas et qu'il faut les remplacer par les jeunes. En fait, c'est une contradiction. En France, quand je vois les gilets jaunes qui se plaignent des grandes corporations, ceux qui sont très riches, qui ne payent pas d'impôts, chez nous, c'est le patronat qui se plaint des fonctionnaires, qui tire le pays par le bas, et le patronat veut tirer le pays par le haut. Donc, en fait, la crise est un concept assez utilisé en Afrique, comme au Mali, vous le savez tous. C'est un état naturel de la vie depuis très longtemps. Le pays, excepté quelques moments d'accalmie, le pays vit chaque 20 ans, tombe dans une crise comme on l'a connu en 2012. Aujourd'hui, comme Alain l'a dit, moi, j'ai travaillé surtout sur les migrations internes à l'Afrique, donc les gens qui quittent le Mali pour d'autres pays comme le Ghana. Et j'ai comparé 2 sites de travaux de travail colonial, le site du Ghana, qui est l'un des sites les plus riches d'Afrique au début du XXe siècle, avec les mines d'or, et le site du Mali, l'office du Niger, le barrage de Markala, où la France coloniale avait commencé à construire en 1939 un grand barrage pour irriguer 1 million d'hectares pour le coton. Et je compare le concept du travail, comment le travail change entre les deux. Et tout récemment, en 2010, j'ai commencé des recherches, j'ai quitté la migration pour venir sur les fonctionnaires, parce que je considère que le Mali, qui est un pays fondamentalement rural, à 75%, je considère que migrer ou aller à l'école sont des formes de passage où l'individu change d'espace, de statut, de solidarité, et ces changements ne se font pas sans conflit. Il y a des conflits autour des ressources, il y a des conflits autour des identités, et c'est ce que j'appelle crise de passage. Donc, je prends trois phases de la crise qui part de l'école, l'entrée à l'école jusqu'à la fin, la crise qui commence quand on prend la fonction publique, quand on rentre on commence la carrière, quand on est à la première marche de la fonction publique jusqu'au top, jusqu'au bout. Et j'analyse aussi la crise, ce que j'appelle la crise du travail après la retraite, parce que vous savez, chez nous, beaucoup de gens sont obligés de travailler alors qu'ils ont pris leur retraite. Ce n'est pas comme en Europe, peut-être, dans les pays développés, où les gens travaillent pour le plaisir après la retraite, pas pour gagner l'argent. Mais chez nous, c'est souvent pour gagner l'argent. Et aussi, je regarde un peu ce qui se passe quand la personne s'en va. Il y a des gens qui veulent mourir, mais qui veulent laisser leur travail pour que ça continue. Et je prends cette longue, donc, de la naissance jusqu'à la mort. Aujourd'hui, je parle des rites. Je voudrais vous donner une perspective globale. Je ne voudrais pas essentialiser l'Afrique. Et les rites dont je parle, ça vient des sociétés secrètes. Et les crises, quand je fais mes enquêtes au milieu des fonctionnaires, beaucoup me disent, je pars me ressourcer dans mon village, hein, pour sortir de la crise dont je vis. Et donc, j'étais porté à un peu regarder les littératures sur les grandes sociétés secrètes. Vous avez les francs-maçons, vous avez la Rose-Croix, vous avez les Skull and Bones. Et c'est pas très différent, hein, sur la recherche, la maîtrise, le secret du travail. Alain m'avait donné la référence où Karl Marx dit que le métier, ça vient du mot mystère, mais je n'ai pas eu le temps de le consulter. Mais quand même, ce que j'ai compris, c'est que dans le monde mandé, dans le Mali, il y a assez de, comme ces grandes sociétés secrètes, hein, je voudrais aussi parler des sociétés secrètes ethniques, locales, qui jouent un grand rôle dans non seulement la résolution des crises, mais aussi dans le fait d'avoir du courage pour le travail, la maîtrise. Et voilà, ça a existé en Europe depuis très longtemps. Et je pense d'ailleurs aux travaux de Jacques Maheu qui disait qu'on ne peut pas comprendre la puissance maritime du Portugal au XVe siècle si on ne comprend pas que lorsque Philippe le Bel a chassé les Templiers ici, ils sont allés se réfugier au Portugal. Ils sont allés avec le mystère, la connaissance du savoir de la construction maritime, et ils ont transmis au Portugal, qui était un minuscule pays de 1,5 million, qui était très pauvre, et qui est devenu une puissance. Donc, si on comprend, c'est la maîtrise du travail, et qu'il y a beaucoup de travaux qu'ils citent dans ce sens. Donc, et j'ai aussi vu, pendant que je faisais mes travaux, j'étais à l'aéroport de Paris, et je passais, je vois le point qui faisait une grande enquête et qui parlait de francs-maçons, pourquoi les gens courent derrière cette association. Et voilà, il dit que les réponses sont claires: quête de sens, soif de spiritualité, besoin d'accomplissement. Ce n'est pas très différent de ce que j'ai découvert aussi, et ces trois besoins, l'accomplissement, l'identité, ce n'est pas très différent de ce que j'ai trouvé au Mali, et c'est de ça que je vais parler. Et donc, je prends, au Mali, j'ai pris trois sociétés secrètes. Et vous avez le premier, c'est le Sigi Dogon, c'est un grand rite Dogon qui est célébré chaque 60 ans. C'est lié à beaucoup de choses. Mais pendant mes enquêtes, j'ai trouvé que le travail est au cœur de cette grande fête chaque 60 ans, parce que quand les Dogons alignent les masques, quand les masques sortent pour célébrer la fête, et tu vois que l'alignement même des gens, c'est par rapport aux activités. Et lorsque Marcel Griaul a travaillé dans ce milieu dans les années 30, quand il est parti, le Sigi qui est venu après sa mort, il y avait un blanc avec son bic. Donc ça représentait le travail de l'intellectuel. Donc il y avait un masque qui est sorti, c'était le dernier masque qui est sorti, c'était un blanc avec son bic. Donc ça veut dire que le bic, c'est l'outil de travail, comme la daba chez les Dogons. Et le deuxième, c'est chez les Senoufo, c'est aussi un grand groupe mandingue qui est entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina. Ça s'appelle le poro. Aussi, quand vous étudiez le symbole du poro, c'est aussi lié au travail. Le troisième, c'est chez les Bambara, le Tiwara. Ça appartient à la société secrète commun. Le Tiwara, c'est la divinité même du travail au Mali. Quand quelqu'un réussit aujourd'hui dans le monde moderne, les entreprises les plus performantes, on les donne le prix du Tiwara. Donc, en fait, j'ai travaillé autour de ces trois. Mais la question, c'était que quand je parlais des crises des gens et que comment ils solutionnaient et qu'ils disaient qu'ils recouraient, qu'ils repartaient, des fonctionnaires disaient « je retourne dans mon village pour me ressourcer ». Et donc, c'est ça. Là où j'ai fait mes enquêtes, c'est Bamako ici, pour ceux qui n'ont aucune idée du Mali. C'est là, c'est en Afrique, au milieu du Sahel, hein, entouré de sept pays. Alors, aussi, je regardais un peu l'étude des crises de passage en Europe. Hein. J'ai pris trois auteurs, surtout le The Age of the Crisis of Man. Ça, c'est vraiment un condensé de la crise de l'homme en Europe, entre les deux guerres, jusqu'à la fin, jusque dans les années 80. Et Mark Greif a vraiment fait un condensé, ainsi que Mendelssohn et puis Martin Rifbrot. Donc, ces trois œuvres, bon, ils ne parlent pas d'autres peuples que des Européens, parce que l'homme ici est considéré comme l'homme européen. Mais quand même, c'est intéressant comment il... Et donc, pour expliquer ma piste de réflexion, j'ai pris ce récit de ce haut cadre de l'État qui a fait 30 ans à un haut poste et dit deux fois par an, je me rends au village pour me ressourcer. Les villageois me demandent souvent à ce que je me fasse laver le corps. Chez nous, on ne meurt pas sans raison. Cette idée du village a été totalement transférée dans l'administration publique. Effectivement, mon papier porte sur le transfert des crises sur le transfert de croyances villageoises dans la fonction publique lorsqu'il y a des problèmes. Et quand on dit laver le corps, c'est la protection, c'est la purification, et ça signifie beaucoup de choses comme chez les francs-maçons. Et donc, j'ai pris de ce récit de ce vieux trois points clés. Donc, le premier point, c'est la visite régulière et ponctuelle au village. Le deuxième point, c'est ce que c'est les villageois qui lui demandent de laver son corps. Et le troisième point, c'est le transfert des séries de... Et pourquoi cela arrive? Et c'est là où je parle de la crise morale. Parce que on pense que comme l'a fait Max Kluckmann, c'est l'un des grands anthropologues sud-africains qui a développé les théories de Van Gennep dans le contexte africain. Il n'est pas le seul, il y a Junod, il y a Fortes, il y a bien d'autres. Mais lui, il a beaucoup plus travaillé sur l'Afrique. Donc, il a, à côté de Evan Pritchard, aussi, il a aussi développé les théories de la crise morale d'Evan Pritchard dans le contexte africain. Donc, Max Kluckmann, ce qu'il dit, c'est que dans les sociétés, par exemple, quand il parle de crise morale, il compare les sociétés modernes et les sociétés tribales. Il dit pour mieux poser le Kluckman, il compare les sociétés tribales avec les sociétés industrielles, argumente pourquoi les crises. Ce qu'il dit, c'est que partout où les hommes se mettent ensemble pour travailler, il y a toujours une crise morale. Lorsque l'entreprise a des problèmes et qu'il faut se débarrasser de certaines personnes. Il dit en Europe, on fait appel à un expert, un consultant. Mais en Afrique, on fait appel à un witch doctor, à un sorcier, à un divin. Il dit c'est parce que en Europe, la technologie est tellement avancée, on pense que la crise est liée à des causes objectives. Alors qu'en Afrique, dans les sociétés tribales, on pense que lorsqu'il y a une crise morale, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, soit tu t'es mal comporté, ou soit la société s'est mal comportée. Donc, en tout cas, il y a un problème, les sources ne sont pas physiques. Donc, moi, je compare ce truc avec le Mali. Il y a des crises au Mali en 78-80, avec le FMI, la Banque mondiale, qui sont venus pour dire, voilà, votre crise économique est aussi technique. Mais lorsqu'il s'agit de la crise d'un individu, il retourne dans le village pour se ressourcer. Pourquoi ? Et là, c'est là où je parle de la ségrégation des statuts et des rôles. Quand on rentre dans la fonction publique et on occupe un grand poste, on doit ségréguer son rôle et son statut. Et c'est là où donc je pose la question, lequel des deux rôles va prendre le dessus sur sa nouvelle fonction ? Celui légal et légitime que lui octroie son statut de chef technique, ou bien celui de père, fils, frère, oncle, neveu, cousin, époux, beau-père, grand-père, petit-fils. Et c'est ça le problème, parce que ce que les économistes appellent la corruption, le clientélisme, ça ne colle pas tellement bien en Afrique. Bien sûr, c'est un terme que tout le monde utilise, mais pour moi, c'est des rôles qu'il faut ségréguer. Si tu as un grand poste, tu dois agir avec. En tout cas, quoi que tu fasses, tu seras accusé, il y aura une crise morale. Si, par exemple, tes parents viennent, disent, bon, ça, ce sont nos cousins, il faut leur donner des postes. Si tu refuses, ta société va t'accuser de méchanceté. Si tu acceptes aussi, alors tu es considéré comme un corrompu, un clientéliste, quelqu'un qui n'arrange que ses parents. Donc, le chef, il est dans cette situation où il doit ségréguer son rôle et son statut. Quoi qu'il fasse, il est dans un grand dilemme, parce que soit sa société va l'accuser de ne rien faire pour eux, le clan, la grande famille, soit il agit et c'est le pays qui perd. Donc c'est ça qui est au cœur de mon analyse pour comprendre cette notion qu'on nous impose, qu'on appelle la corruption. Beaucoup de chefs africains agissent vraiment sous la pression de leurs parents, et bien sûr, la fonction publique étant ce qu'elle est, bien sûr, on ne parle plus de méritocratie, on ne parle plus de d'efficacité. Donc voilà, ça donne donc trois. Elle a commencé il y a très longtemps. Hein, je parle jusqu'à la politique d'africanisation de la France, quand la France devait quitter, et après la Deuxième Guerre mondiale, juste avant même la guerre, surtout après la guerre, on a commencé à remplacer les Français par les Africains. Déjà, la crise a commencé. Déjà, l'individualisme avant l'économie a commencé. C'est l'ajustement, ensuite, l'ajustement structurel. Et donc, si tu ne discrimines pas ton rôle, c'est assez difficile. Je prends mon exemple. J'enseigne à l'université. Ma cousine, elle fait deux fois le test pour entrer. Elle ne passe pas. Et puis, moi, on me dit, bon, il est là à l'université et sa cousine ne passe pas au concours. Il est égoïste, il est méchant. Et pourtant, je ne peux rien faire parce que je suis professeur, mais je ne suis pas dans les commissions de sélection. Et j'explique à sa maman que je ne peux pas faire quelque chose. Elle n'est pas convaincue. Elle ne peut pas imaginer que moi, je sois professeur et qu'elle, elle fait deux fois, elle ne passe pas le concours. Donc, je dois tricher, je dois vraiment influencer pour qu'elle passe. Donc, quoi que je fasse, moi, je suis... Bon, peut-être que... J'ai la chance d'être très souvent hors du Mali, mais si vous êtes dans le pays, c'est très difficile de regarder vos parents en face qui vous occupent un poste et puis on vous dit qu'il n'a rien fait. Jusqu'à votre mort, même le jour où on vous enterre, on va vous dire qu'il n'a rien fait pour ses parents. Le voilà partir, il a eu tout pour lui, mais il n'a rien fait. Donc c'est ça, c'est cette crise que c'est cette crise qui fait que beaucoup de cadres pensent qu'ils doivent retourner, retrouver leur identité et s'initier pour aussi se protéger contre les attaques et les attaques occultes. Alors donc je dégage trois formes de crise, hein, la crise du juste milieu et l'ambivalence de l'excellence et la crise de l'intermittence morale. Bon, je sorte sur la crise du juste milieu parce que la crise du juste milieu, c'est là où j'analyse comment dans notre société, celui qui réussit doit vraiment partager et même si c'est des postes, il doit partager les postes avec ses frères. Si tu ne le fais pas, ils vont vraiment te tirer par derrière. C'est ce qu'on appelle chez nous un concept local, tirer celui qui va devant par derrière. Et l'ambivalence de l'excellence, c'est vraiment la ligne qui sépare le succès et l'échec. Comment cette ligne est très mince. On peut être comme ça aujourd'hui et demain pas fond de sang. Et souvent, les explications sont aussi d'ordre moral. La crise de l'interdépendance. Oui, c'est fini.
Il faut que je te tire par derrière.
OK. Donc, je prends en fait des concepts locaux pour comprendre l'interdépendance morale. Ces trois concepts, chez nous, c'est très ancré. C'est le bambara, c'est la langue de l'Afrique de l'Ouest, une langue très répandue qu'on utilise au Mali. Le premier concept que j'utilise, c'est le Kungo. Ça veut dire, signifie la tête, les troubles des gens. C'est vraiment traiter le problème de quelqu'un comme son propre problème. Le deuxième, c'est Mokosebeya. Ça veut dire vraiment une personne sérieuse. Une personne sérieuse, c'est quand tu es dans chef, tu donnes tout, tu partages même les biens de l'État. Tu donnes tout et ça, c'est être bon. C'est ça être bon. Quand on est chef et on est rigoureux, on dit, bon, l'essence, tu contrôles, tout le bien de l'État, tu contrôles avec curiosité, on va dire, il est méchant, on ne dit pas qu'il est comme ça. Et ensuite, le troisième concept, c'est Balmaya, qui veut dire l'amour du cousin, l'amour du frère. Et donc, quand on transfère cet ordre moral dans la fonction du village, dans la fonction publique, vous voyez que ça ouvre la voie au népotisme, ce qu'on appelle en français le népotisme, le clientélisme. Mais dans notre concept, dans nos concepts locaux, ça traduit cela. Et donc, mais aussi, je parle de la compétition aussi dans la fonction publique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétition entre les cousins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétition entre les frères. Mais aujourd'hui, cette compétition est aussi analysée avec une représentation très négative. Avant, le Fadeya était valorisé, c'était vraiment une compétition entre des frères et très valorisé. Maintenant, c'est considéré comme une grande méchanceté.
Il faut vraiment terminer.
Voilà, je termine là pour dire que la crise morale en Afrique, la crise même aujourd'hui au Mali, la crise politique. Depuis 1991, lorsque le régime de la dictature est tombé, les Bamakois ont donné un concept pour réparer, pour que le pays se régénère. Ils ont dit Kokadje, laver propre. Ce n'est pas très différent du fonctionnaire qui disait se laver le corps. Ici, c'est le corps social qu'il faut laver, c'est que le pays était souillé. C'est un concept de connotation très morale. C'est-à-dire que si le Mali tombe, c'est parce que les Maliens ont été très méchants. Malheureusement, le Kokadje n'a pas marché et le pays est retombé en 2012 dans la crise. Et si vous allez aujourd'hui au Mali, c'est toujours les mêmes discours sur que si on est dans la crise, c'est parce qu'il y a un comportement moral. L'ordre moral a été renversé et il faut ramener l'ordre moral. Voilà, donc je me limite là. Merci.